Octave Mirbeau, le tambour. Saint Latuin était, et il est toujours, j'aime à le croire, le patron vénéré de notre paroisse. Premier évêque de Normandie au 1er siècle de l'ère chrétienne, il avait chassé du pays Percheron à coups de crosse les druides sacrificateurs de sang humain. On raconte dans les livres des anciens que son ombre, seul, guérissait les malades et ressuscitait les morts. Il avait encore des pouvoirs bien plus beaux, et pareil, j'imagine, à ceux que possédait le révérend père Mounoir, lequel, par une imposition de ses mains sur les lèvres des étrangers, leur inculquait immédiatement le don de la langue bretonne, ainsi que cela est figuré sur une fresque de Jean d'Argent, 1824-1889, peintre et illustrateur sur les murs de la cathédrale de Quimper. De ses merveilleux pouvoirs de Saint-Lustien, je me souviens plus guère, bien que mon enfance en ait été bercée, mais tout cela est un peu brouillé dans ma mémoire aujourd'hui. Et je serais fort en peine s'il me fallait compter tous les prodiges qu'on lui doit. La cathédrale diocésaine gardait, précieusement enfermée dans un reliquaire de bronze doré, quelques restes authentiques et poussiéreux de ce magique saint Latuin. Une dent, entre autres, et des fragments de tibia menus comme des allumettes. Son culte, entretenu dans les âmes par les savantes exégèses et les miraculeuses anecdotes de notre bon curé, était très en honneur chez nous. Malheureusement, la paroisse ne possédait de son aimé patron qu'une grossière et vague image de pâtre indécemment délabré et tellement insuffisante et si authentiquement apocryphe que les vieux du pays se rappelaient l'avoir connu dans leur jeunesse, pour figurer tour à tour et selon les besoins de l'actualité liturgique, les traits de Saint-Pierre, de Saint-Fiacre et de Saint-Roch. Ces successifs avatars manquaient vraiment de dignité et servaient de thème aux irrespectueuses plaisanteries des ennemis de la foi. Cela navrait le bon curé, qui ne savait comment remédier à une situation causée non point par l'indifférence de fidèles, mais par la pauvreté des ressources paroissiales. À force de démarches et d'éloquentes prières, occultant de Monseigneur, qu'il se dessaisit du reliquaire et qu'il en fit don à notre Église. Ce fut une grande joie que cette nouvelle annoncée un dimanche au prône, et l'on se prépara aussitôt à célébrer par d'inoubliables fêtes la translation des reliques, si longtemps et si ardemment convoitées. J'avais alors 12 ans, et je jouais du tambour comme un homme. Or ça, dans le pays, vivait un singulier personnage nommé M. Sosthène Martineau. Oh, je le vois encore, gros, dodu, avec des gestes onctueux, des lèvres fourbes qui distillaient l'huile grasse des sourires, et un crâne aplati, glabre et rouge, pareil à une tomate trop mûre. Ancien notaire, M. Martineau avait été condamné à 6 ans de réclusion pour vol, abus de confiance, escroquerie, faux. 6 ans durant lesquels il édifia la prison de Poissy de sa résignation admirable et de son habileté à tresser des chapeaux. Sa peine terminée et rentré dans sa maison, il reconquit vite l'estime de ses concitoyens par une gaieté de bon aloi, une piété sagace, sincère, peut-être, après tout. Car que sait-on? Ce qu'il y a de certain, c'est que personne ne lui manquait de froideur ni de féperie. Les familles les plus honorables, les plus rigides, le recevaient comme un vieil ami revenu d'un long voyage. lui-même parlait de son absence avec des airs calmes et lointains. Et quel talent! Aucun ne savait mieux que lui organiser une solennité religieuse, mettre en scène une procession, décorer un reposoir. Il était l'âme de toutes les fêtes, ayant beaucoup d'imagination et de poésie, et les cantiques qu'il composait spécialement pour ces cérémonies devenaient rapidement populaires. On les chantait non seulement à l'église, mais encore dans les familles, le soir, autour des tables de veillée. En ai-je chanté, grand Dieu, de ces cantiques-là? M. Sosthène Martineau fut naturellement chargé d'exécuter le plan de fête en l'honneur de Saint-Latuin. J'ose dire que ce fut admirable. Il vint un matin à la maison et dit à mon père, « Je vous demande, Georges, j'ai besoin de Georges. Oui, j'ai pensé que Georges, comme tambour, pourrait conduire la procession. Il n'est pas grand, c'est pas mon Dieu un tambour major, mais il bat très bien, il bat d'une façon extraordinaire pour son âge. Il a du feu et des principes. Bref, c'est ce qu'il me faut. Et c'est un honneur que j'ai voulu lui réserver. Car on en parlera longtemps de cette fête, mon bon ami. Je vous en réponds. » Joignant les mains comme un saint en prière, M. Sosthène Martineau reprit. « Quelle fête, mon bon ami! Oh, j'ai déjà tout le plan, ensemble et détail dans la tête. 6 arcs de triomphe, pensez donc. Conduite par Georges, la procession va recevoir Monseigneur sur la route de Chartres, au carrefour du Moulin Neuf. La musique de la pension jouera des marches que j'ai faites. Des chœurs de jeunes filles en blanc, portant des palmes d'or, chanteront des cantiques que j'ai faits. Il y aura un groupe de druides enchaînés. Et les bannières, et ça, et ça, et ça. Oh, ce sera beau comme une cavalcade. Voulez-vous que je vous chante mon principal cantique? Écoutez ça. » Et sans attendre la réponse de mon père, M. Martineau entama d'une voix ferme le cantique dont je me rappelle ce couplet lyrique. Autant jadis l'horrible Dieu trônait partout sur nos montagnes, et les chrétiens dans les campagnes tremblaient sous leurs joues odieux. Ô Père tendre, qui pourra rendre les cieux plus doux? Saint-Latuin, ce sera vous, Saint-Latuin, ce sera vous. Honneur à vous, honneur à vous, honneur à vous. Mon père était ravi. Il félicita M. Martineau de ses talents sur la poésie et le remercia de sa proposition. Quand mon père m'apprit l'incomparable honneur auquel j'étais destiné, je pleurai très fort. « Je ne pourrai jamais, bégayai-je. « On peut ce qu'on veut, prononça mon père. « Travaille, applique-toi, soigne tes roulements. » Comment une procession pareille, une fête unique dans les annales de la paroisse, et toi en tête, et tu pleures, mais tu te rends donc pas compte. Voyons, tu comprends donc pas, sapristi. Oh, il ne m'est jamais arrivé une chance pareille à moi. Pourtant, je suis ton père. Ma mère, mes sœurs, mes cousines me raisonnèrent. Elles me firent honte de ma faiblesse et de ma timidité. Ma mère, surtout, se montra exaltée et colère. Ben, « si tu veux pas, cria-t-elle, écoute-moi bien. Je te reprendrai un bon tambour, et je le donnerai à un pauvre. »« c'est ça, applaudit toute la famille. On lui reprendra son tambour. »« Brave Jean, comme vous êtes loin aujourd'hui. » Il fallut bien me résigner. Durant un mois, tous les jours, je piochais douloureusement mon tambour, tantôt sous la présidence de mon père, tantôt sous celle de M. Martineau, qui, l'un et l'autre, de la voix et du geste, encourageaient mes efforts. Le grand jour arriva enfin. Il y avait dans la petite ville une animation insolite et fiévreuse. Les rues étaient pavoisées, les chaussées, les trottoirs jonchés de fleurs. D'immenses arcs de verdure, reliés par des allées de sapins, donnaient au ciel, à l'horizon, aux maisons, à toute la nature, d'impressionnants aspects de mystère, de triomphe et de joie. À l'heure dite, le cortège s'ébranla, moi en tête, avec tambour battant sur mes cuisses. J'étais bizarrement harnaché d'une sorte de caban dont le capuchon se doublait de laine rouge. Une fantaisie décorative de M. Martineau, lequel pensait que le caban avait quelque chose de militaire et s'harmonisait avec le tambour. Il pleuvait un peu, le ciel était gris. « Alors, mon petit Georges, me dit M. Martineau, du l'air, de la précision et de l'éloquence. Plom, 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 plom. » À partir de ce moment, je n'ai plus de cette journée historique que des souvenirs confus. Je me rappelle qu'une immense tristesse m'envahit. Tout me paraissait misérable et fou. J'aurais voulu m'enfuir, me cacher, disparaître, tout d'un coup dans la terre. Moi, mon caban et mon tambour. Mais M. Martineau me harcelait. Je l'avais sans cesse derrière moi qui disait « Très bien, du l'air, allez battez plus fort, on n'entend rien. » La pluie détendait la peau de mon tambour qui, sous le mouvement accéléré des baguettes, ne rendait que des sons étouffés, sourds, lugubres. Je ne vis pas Monseigneur l'évêque. Je ne vis pas le reliquaire, je ne vis rien, rien, qu'une grande foule vague où d'étranges figures se détachaient, passaient et disparaissaient sans cesse. J'entendis rien, rien qu'un bourdonnement confus de voix lointaines, de voix souterraines. Je ne voyais que M. Martineau, le crâne rouge de M. Martineau, conduisant la musique, poussant les druides enchaînés, dirigeant les chœurs de jeunes filles qui chantaient dans les glapissements cacophoniques « Autant jadis d'horribles dieux !» Et je battais du tambour, machinalement, d'abord, puis, avec rage, avec frénésie, emporté dans une sorte de folie nerveuse qu'exaspéraient encore les encouragements de M. Martineau. « C'est ça, bravo, du l'air !» Plom, 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 plom. Cela dura longtemps. Cela dura un siècle, à travers des routes, des chapelles, des arcs de triomphe, des fantômes. Le soir, notre curé offrait un grand dîner. Je fus présenté à Monseigneur. « C'est le petit garçon qui a joué si bien du tambour, Monseigneur, » dit le curé en me donnant sur la joue une tape amicale. « Ah, vraiment ? » fit l'évêque. « Mais il est tout petit !» Et lui aussi me donna une tape sur la joue. Le grand vicaire fut comme l'évêque, et tous les convives, qui étaient plus de 20, firent comme avait fait le grand vicaire. « Bois-tu ? » me dit mon père au comble de la joie. « M'écouteras-tu une autre fois ?» Et comme je ne répondais pas, il déclara d'une voix sévère, « Tiens, tu mérites pas ce qui t'arrive. » Ce qui m'arriva, accablé devant de tant de secousses et tant d'émotions, je pris la fièvre le lendemain. Une méningite me tint longtemps entre la vie et la mort, dans le plus affreux délire. Et si je n'en mourus pas, m'a dit souvent mon père, « Je le dois à mon tambour, qui fut entendu de Saint-Lô-Thuin. »